France Inter.
Il est 13h sur Inter. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Sans la musique, je n'aurais pas survécu. Un jeune violoniste palestinien a pu quitter Gaza il y a quelques semaines, réfugié en France. Il nous raconte dans un instant les notes et les bombes. À suivre encore, l'incroyable prouesse militaire de l'Ukraine qui hier a décimé une partie de l'aviation russe. Nous verrons comment et quelles sont les réactions à Moscou. Nous serons également dans les prochaines minutes en Pologne après la victoire hier soir du candidat nationaliste à l'élection présidentielle. Nous écouterons notamment ses électeurs. La fête gâchée à Paris. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
C'était samedi soir, violence et dégradation. Y a-t-il eu des failles ?
Alors le préfet de police de Paris réfute la moindre faille globale dans le dispositif sécuritaire mis en place durant tout le week-end. Mais là où il y avait le plus de forces de l'ordre mobilisées, il y a quand même eu des pillages sur les Champs-Élysées et un blocage du périphérique spectaculaire Porte Saint-Cloud avec des jeunes gens qui n'avaient pas vraiment le foot en tête.
Après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. À tout de suite. Nous parlerons également des orages très violents dans le Puy-de-Dôme hier soir. La pleine saison aussi pour remplir ces cuves de fioul ici en Picardie.
Cette baisse de prix, on ne l'avait pas vue depuis le Covid. Avec le moment du Covid, le fioul avait également chuté. Ensuite, il avait bien remonté. Et là, cette année, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Reportage dans quelques minutes. Et puis, nous prendrons des nouvelles d'une joueuse de tennis française. C'est la dernière en lice à Roland-Garros. Loïs Boisson, en huitième de finale, opposée à une grosse pointure américaine. Nous serons en direct des cours de la Porte d'Auteuil. À partir de 13h30, la lauréate du prix du Livre Inter 2025 avec nous, l'écrivaine Florence Sévos pour son roman Un perdant magnifique aux éditions de l'Olivier. Le prix a été dévoilé ce matin sur Inter. Florence Sévos qui est changera avec ceux et celles qui lui ont attribué ce prix, la présidente du jury, la romancière Marie-Hélène Lafont et les 24 jurés venus de toute la France, sans oublier Eva Bétan. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Que peut la musique face à la guerre ? Je voudrais que l'on débute ce 13-14 avec le témoignage de ce violoniste. Il s'appelle Mohamed Iless, il a 27 ans et il a réussi à fuir l'enfer de Gaza. Voilà quelques semaines qu'il est arrivé en France, à Paris, dans le cadre d'un programme international. Vous avez pu le rencontrer. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Il a aujourd'hui beaucoup de mal à raconter ce qu'il a vécu.
Oui, ses premiers jours à Paris, Mohamed Iless les a passés dans un état second.
Je ne réalisais pas vraiment. Je n'étais pas préparé à quitter Gaza. Quand vous avez vécu sous une tente pendant un an et demi et que vous arrivez à Paris, ça vous fait un choc.
Le soulagement de pouvoir revivre normalement, l'émotion d'assister à des concerts. D'ailleurs, les larmes montent quand il évoque un concerto de Bach à la Philharmonie. Tout ça se mêle au déchirement de savoir ses proches toujours à Gaza. Il consulte sans cesse les boucles Telegram où sont égrenés les noms des morts dans l'enclave palestinienne. Les nouvelles de ses parents et de son frère lui arrivent tous les deux ou trois jours au hasard de leur connexion Internet.
C'était déjà dramatique quand j'y étais. Mais là, il n'y a plus de nourriture. Hier, mon frère me disait que dès qu'il se lève, il a des vertiges. Sa vue se brouille. Ils sont vraiment très faibles.
Avant la guerre, Mohamed Iless était donc violoniste à Gaza.
Oui, il jouait avec le conservatoire Édouard Saïd. Au début de la guerre, il a dû abandonner ses violons quand il a quitté sa maison, ce qui ne l'a pas empêché de monter un stage de musique pour les enfants au milieu des tentes, comme une échappatoire à l'horreur.
On n'avait qu'un seul violon, un tout petit. Il n'avait plus que deux cordes. On a dû mettre des cordes de guitare. Et quand les deux cordes d'origine ont cassé, on les a remplacées par des freins de vélo. Et étonnamment, ça l'a fait.
Aujourd'hui, il joue moins. Les démarches administratives lui prennent beaucoup de temps. Il garde l'espoir de faire venir sa famille, les revoir sains et saufs. Lui-même dit n'avoir pas complètement survécu à l'enfer de Gaza.
Un violon avec des cordes, avec des freins de vélo. Merci Laurie. Aurélie Carive pour ce reportage. Aux États-Unis hier, dans l'état du Colorado, un rassemblement pour la libération des otages de Gaza a été attaqué. Un homme a lancé des engins incendiaires au cri de « Palestine libre ». Il y a 8 blessés. Le FBI et la police américaine parlent d'un acte terroriste. Israël dénonce une attaque antisémite. Les Américains qui ne sont pas à Istanbul aujourd'hui, où les négociations entre Russes et Ukrainiens reprennent à l'instant sous l'égide des Turcs. Des discussions Kherson, alors qu'hier, les Ukrainiens ont frappé un grand coup en détruisant une partie de l'aviation militaire russe, des avions stationnés au sol, sur des bases en Russie, épilonnées par des drones ukrainiens. Alors nous serons en direct de Moscou dans un instant. D'abord, arrêtons-nous sur cette opération militaire préparée depuis un an et demi, selon les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre spécialiste des questions militaires. Alors ces drones sont partis de Russie, hein, pas d'Ukraine. Eric, ça veut dire que les Ukrainiens ont réussi à infiltrer le territoire russe ?
Oui, oui, c'est une opération de guerre clandestine, hein, majeure et pratiquement sans précédent. Hein. Il leur a d'abord fallu aux Ukrainiens importer dans le plus grand secret en Russie et très loin dans la profondeur du territoire russe, jusqu'en Sibérie, des dizaines de drones armés, les dissimuler dans des containers, eux-mêmes montés sur des poids lourds civils pourvus d'un toit ouvrant. Il a fallu ensuite programmer les vols de ces drones pour les lancer en même temps, sur des trajectoires différentes. Il a fallu ensuite acheminer ces containers à proximité immédiate des quatre différentes bases aériennes visées. Pourquoi à proximité ? Bah, tout simplement pour qu'une fois ces drones largués depuis ces camions, il n'ait que quelques centaines de mètres à parcourir avant de frapper leur cible, histoire que les radars et les défenses antiaériennes russes n'aient pas le temps de réagir. La tactique a été bien réfléchie et l'opération déclenchée de façon quasi simultanée sur les quatre bases aux quatre coins du pays. La surprise a été totale.
Les Ukrainiens ont fait ça tout seuls ?
Alors c'est probable, hein. En tout cas tous les matériels utilisés pour cette opération semblent avoir été de conception et de réalisation strictement ukrainienne. À vrai dire, les Ukrainiens sont passés maîtres dans l'art d'innover en matière de drones de combat et surtout de produire ceux-ci en quantité industrielle. Aucun pays allié de l'Ukraine ne leur arrive à la cheville à ce niveau-là.
Ce sont des pertes extrêmement lourdes pour les Russes ?
Alors bien sûr, on n'a pas encore confirmation du nombre d'appareils russes endommagés ou détruits. Une quarantaine assure les Ukrainiens, et pas n'importe lesquels, des bombardiers stratégiques à long rayon d'action, capables de tirer des missiles longue portée, y compris des armes nucléaires. Selon le président Zelensky, ce serait près d'un tiers de la force stratégique aérienne russe qui aurait été touchée. Et le pire, pour les Russes, c'est que la plupart de ces avions ne pourront pas être remplacés facilement. Datant de l'époque soviétique, ils ne sont tout simplement plus produits.
Merci Eric Biegala pour ces explications. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en direct de Moscou. Sylvain, est-ce que Vladimir Poutine a réagi à ce qui ressemble quand même à une humiliation ?
Non, aucune réaction de Vladimir Poutine, pas même d'ailleurs non plus de réaction de son porte-parole. Et à vrai dire, ça n'est pas très surprenant. Le chef du Kremlin ne réagit jamais, en tout cas à chaud, aux mauvaises nouvelles, parce que c'en est une. Les médias russes, qui savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les images de passer, parlent d'attaques sur les aéroports. Sans en faire trop, l'armée a admis que quelques appareils avaient brûlé, mais sans plus de détails. Et chose rare quand même, ce matin, quelques blogueurs militaires et même un député du parti au pouvoir s'interrogent sur cet échec des forces de sécurité intérieure. Mais bon, l'autocritique n'est pas la norme en Russie. Ce matin, c'est surtout l'Ukraine qui est qualifiée d'État terroriste après ses raids, mais aussi après l'accident de train, hein, qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés suite à l'explosion d'un pont ce week-end dans la région de Bryansk. Et puis la frange la plus dure réclame des représailles. Maintenant, certains journaux comme Argumenti Fakti demandent le lancement d'un nouveau missile hypersonique Oreshnik. D'autres s'interrogent sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec Kiev, alors que s'ouvrent théoriquement de nouvelles discussions à Istanbul. Aujourd'hui, discussions dont un expert disait hier soir à la télévision publique qu'elles étaient de toute façon inutiles.
Merci Sylvain Tronchet, correspondant d'Inter en Russie. La guerre en Ukraine, dont il a été beaucoup question lors de l'élection présidentielle polonaise. La Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, accueille plus d'un million de réfugiés. Ce scrutin hier a donc vu la victoire du candidat nationaliste Karol Nawrocki, admirateur de Donald Trump, qui s'impose face au maire de Varsovie, lui pro-européen. 50,8% des suffrages. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Varsovie. Alors c'est un Premier ministre pro-européen, Donald Tusk, qui dirige le pays en ce moment, pays qui est d'ailleurs en pleine croissance économique. Mais là, pour la présidentielle, une majorité d'électeurs fait le choix inverse. Vous avez interrogé ce matin quelques-uns de ces électeurs.
Oui, Jérôme, avec des sourires et le soulagement, par exemple, pour Zosha, 25 ans, croisé ce matin dans le centre-ville et qui s'apprête à enfourcher son vélo pour aller au travail. Après un moment d'hésitation, la jeune femme a voté pour Karol Nawrocki hier et elle est évidemment satisfaite de la victoire du candidat nationaliste.
Par rapport à mes valeurs, c'est un bon choix. Je suis catholique et, par exemple, je suis opposée à l'avortement. Et puis, je suis contre les arrivées de réfugiés dans notre pays. Cela peut amener des problèmes. Mais c'est très triste, je trouve, que la Pologne soit si divisée.
La Pologne et les Polonais d'abord, le slogan de Karol Nawrocki résume tout. Le candidat nationaliste juge trop généreuses les aides versées aux réfugiés ukrainiens. Grand admirateur de Donald Trump qu'il a rencontré à la Maison Blanche, il plaide pour une Pologne davantage souveraine, ce qui préoccupe Karolina qui travaille dans l'événement.
Je suis déçu. Ses relations avec des gens peu recommandables m'inquiètent. Et puis, il va uniquement se concentrer sur la Pologne, rien de plus. Mais on a besoin des réglementations et de l'argent de l'Union européenne. Il faut qu'on avance. Nous sommes des citoyens européens, pas seulement polonais.
Voilà donc une Pologne coupée en deux. L'Est et les zones rurales ont voté pour Nawrocki. Les villes pour Trzaskowski, le candidat soutenu par la coalition de Donald Tusk. Trzaskowski qui vient de reconnaître sa défaite.
Alors, la Pologne est en première ligne avec la France et l'Allemagne au sein de l'Union européenne dans le soutien à l'Ukraine. Que peut changer cette élection ?
Alors cette victoire va compliquer sérieusement le travail de la coalition pro-européenne de Donald Tusk qui est au pouvoir depuis fin 2023. À plusieurs reprises, le président polonais sortant Andrzej Duda, issu comme Karol Nawrocki, comme le vainqueur des élections des rangs du PiS, a fait valoir son droit de veto. Il a bloqué plusieurs réformes emblématiques du gouvernement. Tusk misait sur une victoire de Rafał Trzaskowski pour faire aboutir ses projets enfin sur par exemple le système judiciaire, sur les droits LGBT, sur l'avortement notamment, qu'il a promis de légaliser. Mais après cette victoire de Karol Nawrocki, eh bien la paralysie, le blocage politique risque de se poursuivre.
Et la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni félicite à l'instant le candidat Karol Nawrocki pour sa victoire à l'élection présidentielle polonaise. Merci Sébastien Baer en direct de Varsovie avec les moyens techniques de Nicolas Mathias.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est un échec, mais pas un échec total. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, défend son dispositif après les violences, dégradations et pillages de ce week-end à Paris dans le cadre des festivités autour de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les violences se sont d'ailleurs poursuivies hier soir avec 79 personnes interpellées et de nouveau un envahissement du boulevard périphérique parisien. Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. On va voir avec vous dans un instant pourquoi ce dispositif a été en partie débordé. D'abord, il faut dire qu'il y a eu des violences ailleurs qu'à Paris samedi soir.
Oui, on pense d'abord à Grenoble, hein, où un chauffard en pleine célébration de la victoire parisienne a foncé dans la foule, a percuté 4 personnes d'une même famille, 2 sont grièvement blessés. Et puis à Coutances dans la Manche, c'est un policier qui a été atteint à l'œil par un pétard. Il a été placé dans un coma artificiel. Mais on pourrait citer Bobigny en Seine-Saint-Denis, où une vingtaine de jeunes avaient préparé une glacière avec des cocktails Molotov. Embuscade déjouée, ou à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, où là ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont affrontées avec les policiers, qui ont dû répliquer à plusieurs reprises avec une grenade lacrymogène et lanceur LBD.
Alors à Paris, les autorités savaient que l'après-match était à risque. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Alors avec 570 interpellations et 323 gardes à vue, le préfet de police parle d'un bilan totalement inédit pour ce genre d'événement festif. Laurent Nunez réfute le terme de fiasco, pas de faillite globale non plus, mais il y a bien eu des pillages, y compris sur les Champs-Élysées samedi soir, comme la boutique Foot Locker par exemple, et sur les images, on ne voit pas au départ de section CRS ou de gendarmes mobiles. Un ancien CRS délégué syndical que nous avons pu joindre à la mi-journée essayait encore de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il apparaît en tout cas que les forces de l'ordre ne pouvaient en réalité protéger chaque vitrine, chaque grande enseigne. Les unités constituées CRS ou gendarmes doivent être un minimum à chaque fois de 15 agents pour ne pas être débordés. Et là, comme c'est arrivé par le passé, ça va très vite. Dès qu'un petit groupe trouve une brèche, réussit à pénétrer dans un magasin, il y a très vite une vague qui déferle. Et là, en quelques secondes, il faut bien plus que 15 policiers ou gendarmes. Mais ça veut dire laisser une autre enseigne. Et sur les Champs-Élysées, ce sont beaucoup d'enseignes de grand luxe.
Merci Emmanuel Leclerc pour ces précisions. En marge de ces célébrations, 2 jeunes hommes sont morts samedi soir, l'un à Paris, renversé par un automobiliste. Ce jeune d'une vingtaine d'années circulait à scooter. Le conducteur de la voiture a été relâché, l'enquête se poursuit. Et puis à Dax, un mineur de 17 ans a été poignardé à mort en centre-ville. L'auteur présumé est en fuite. Selon nos confrères d'ici Gascogne, la piste d'un vol de casquettes est étudiée par les enquêteurs. Plusieurs départements français touchés par des orages ces dernières heures et les dégâts sont particulièrement importants dans le sud-est du département du Puy-de-Dôme où vous vous trouvez. Bonjour Lauriane Navarre.
Bonjour.
Vous êtes précisément à Olliergues, c'est une commune qui est située entre Thiers et Ambert. Alors dans cette commune, pas de victimes, mais de gros dommages en raison des chutes de grêlons très volumineux.
Oui, et dès qu'on arrive à l'entrée de la commune, c'est frappant. Hein. La route est jonchée de feuilles, de branches, les arbres déchiquetés par cet orage de grêle, des grêlons volumineux, comme vous l'avez dit, gros comme des balles de golf, selon le gérant des serres du Forez. Lui, il a quasiment tout perdu. Sa serre en verre de 1000 m² est détruite, un amas de plaques en verre au sol, des éclats dans les plantes. Ce sont des milliers d'euros de dégâts. Dégâts aussi au camping des Chelles. La toiture du restaurant est touchée, la piscine est en cours de nettoyage et tous les mobilhomes troués par les impacts de grêlons. Mais Lucie, la gérante, me disait on n'est que le 2 juin, on a le temps d'être prêt pour le lancement de la saison estivale. À Oliargues, depuis ce matin, on en est à 140 interventions. Ça devrait monter à 200 d'ici la fin de la journée. La coupe est pleine pour le maire Arnaud Provencher qui a connu un violent orage l'année dernière à la même période.
Merci Lauriane Avard pour ces informations de nos confrères d'ici Auvergne. Alors pour qualifier ce qui s'est passé dans le ciel d'Auvergne, hier soir peu avant 20h, la préfecture du Puy-de-Dôme parle d'un orage supercellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Explication d'Alix Roumagnac, président de Predict Service, organisme de prévention et de gestion des risques.
L'orage supercellulaire, sa particularité, c'est beaucoup d'énergie, c'est-à-dire une différence entre la température au sol qui est très forte et la température sur le haut des nuages qui est très froid. Et cette différence de température crée beaucoup d'énergie et donc des phénomènes de grêle et de vent très forts associés à ces orages supercellulaires. Cette différence de température très importante se retrouve très souvent au printemps où on a encore de l'air froid en altitude et des journées très chaudes avec le règlements climatiques, des températures plus fortes au sol à la fin de l'hiver, on peut s'attendre à avoir des phénomènes de supercellulaires plus fréquents et donc il faut se préparer à anticiper ces phénomènes et se mettre en sécurité lorsqu'ils arrivent.
Alix Roumagnac au téléphone de Simon Le Baron, prévision météo complète. Dans une quinzaine de minutes, la douceur des températures en ce début du mois de juin ne fait pas oublier qu'il faut bien sûr anticiper le froid de l'hiver prochain avec cette bonne nouvelle pour tous ceux qui se chauffent au fioul. Le prix 1 euro le litre en ce moment, c'est du jamais vu depuis 5 ans selon les professionnels qui multiplient les livraisons. Illustration à Vignacourt en Picardie, Paola Guzzo.
Essayez de mettre 1000 litres. Moi, je m'occupe de ça, monsieur Desplanques.
Premier arrêt de la tournée, 1000 litres de fioul pour remplir la cuve d'Armand Desplanques. 80 ans, un client fidèle d'Énergie Vasseur qui se tient très au courant des variations de prix.
Je téléphone à Vasseur et puis je lui dis à combien il est de fioul. Alors elle m'a dit c'est 1000 euros pour 1000 litres. J'en profite du prix parce que c'est pas sûr que ça va rester un prix comme ça. Hein.
Un investissement pour son chauffage qu'il devra refaire en janvier prochain. Alors ce ne sont pas des petites économies, selon Christophe qui vient de lui livrer son fioul.
3-4 mois en arrière. Et payer 1200-1210 euros. On nous dit, vous savez, la vie est dure, j'ai une chiotte retraite.
Lui doit encore rendre visite à 6 clients cet après-midi. En 25 ans de métier, Christophe n'avait jamais vu un mois pareil.
D'habitude, c'est vrai que le mois de mai, il n'y a pas le cachet, c'est quand même une période où c'est un peu plus creux.
Cela fait 2 mois que l'entreprise livre 30 clients par jour. Selon Marie-Pierre Rogacki, elle est responsable de l'agence Énergie Vasseur de Vignacourt.
Cette baisse de prix, on ne l'avait pas vue depuis le Covid. C'est vrai qu'au moment du Covid, le fioul avait également chuté. Ensuite, il avait bien remonté. Et là, cette année, c'est vraiment, vraiment intéressant.
La demande a bondi de 25% en un an sur cette période-là, selon l'entreprise Énergie Vasseur.
Reportage ici Picardie. Là, c'est de mode à bas prix dont on parle. Une proposition de loi pour freiner la fast fashion est examinée cet après-midi au Sénat. Selon l'ADEME, l'Agence française de l'environnement, plus de 48 par habitant sont mis sur le marché chaque année en France. Quand 35 vêtements sont jetés chaque seconde dans notre pays. Pointez du doigt la Chine et ses géants de la mode, Chine et Temu, qui inondent le marché de vêtements pas chers, des vêtements qui ne sont pas toujours respectueux des normes. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
C'est ce qu'a rappelé ce matin la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, en visite sur un site de la répression des fraudes près de Lyon. Vous l'avez suivi ?
Oui, engrais, colforte, lunettes de soleil, toutes les marchandises suspectes sont confiées à l'examen microscopique des techniciens du labo, notamment des textiles bon marché en provenance d'Asie. Louis Simanski est responsable de l'unité scientifique.
On vous donne de la laine classique et puis on vous dit que c'est du cachemire ou on vous dit que c'est de l'alpaga. L'alpaga, c'est une chèvre, ça coûte très cher. Souvent, on n'a pas les bonnes proportions d'alpaga. On nous annonce 15% d'alpaga, il y en a 3 ou 4%. On a aussi la viscose ou le polyester qui peuvent se faire passer pour de la soie. C'est souvent la fibre noble qui coûte cher, qui permet de vendre le produit très cher. On s'aperçoit qu'on a de la fibre synthétique à la place.
Le textile est le secteur le plus polluant au monde, a rappelé Agnès Pannier-Runacher. La ministre a souligné l'aspect protecteur de la loi.
Ce sont des produits qui se présentent souvent comme accessibles au plus grand nombre, mais qui en réalité pèsent sur le portefeuille puisqu'ils poussent à l'achat de produits qu'on peut à peine porter parce qu'ils s'abîment très très vite. Et c'est ce coût caché que nous voulons dénoncer, coût caché pour l'environnement, coût caché pour les entreprises et les emplois, mais aussi coût caché pour les consommateurs et qui impacte grandement le pouvoir d'achat des Françaises et des Français.
Les Français achètent 40% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Ils représentent 22% du 1,5 milliard de colis qui arrivent chaque année.
Christophe Vincent à Oullin, Pierre Bénite, tout près de Lyon pour Inter. L'Assemblée nationale veut-elle se substituer à la justice? Les députés examinent cet après-midi ce qu'on appelle une loi de validation. Une loi qui va concerner l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Ce texte a déjà été approuvé au Sénat et il veut en fait faire valider de manière rétroactive les autorisations environnementales qui ont été accordées à ce chantier. Ces autorisations qui avaient justifié l'arrêt des travaux en février dernier, travaux finalement autorisés la semaine dernière par la justice administrative. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Quels sont les arguments des promoteurs du texte?
Tout simplement, on a perdu trop de temps, se justifie Jean Terlier, le député macroniste du Tarn, porte ce texte pour faire donc valider ce chantier sans attendre la décision sur le fond de la cour administrative d'appel.
Le coût par mois pour sécuriser un chantier comme celui de l'autoroute A69, c'était 10 millions d'euros d'argent public. On n'avait pas d'autre solution que de prendre nos responsabilités.
Et ça passe donc par cette loi de validation, procédure très rare qui vise à passer outre la justice, se désole la députée écologiste de Haute-Garonne, Christine Arrigui.
Parce que la décision du tribunal de Toulouse ne convient pas à certains parlementaires, ils ne tentent même pas de changer le droit. Mais ils enjambent carrément le droit, ils enjambent évidemment la justice.
Et s'engager sur cette voie-là, c'est ouvrir la boîte de Pandore, craint sa collègue insoumise Anne Stambach-Ternoir.
Ça crée un précédent. Là, on inverse tous les rôles. C'est absolument insupportable et je pense que ça crée une véritable menace pour notre démocratie.
Alors, faux argument pour les partisans de l'A69. Ce qui se joue d'abord pour Jean Terlier, c'est tout simplement l'avenir de ces grands chantiers.
Ça va remettre en cause le Lyon-Turin, ça peut remettre en cause demain la LGV entre Toulouse et Paris. Chacun a une petite part sur son territoire d'autoroute A69. Tout le monde se dit, on ne pourra plus rien faire dans nos territoires.
695 amendements ont été déposés pour un débat prolongé qui s'annonce très houleux cet après-midi.
Merci Jérôme Val. La situation sanitaire se dégrade à Mayotte. Le département passe en phase d'épidémie pour le chikungunya. Santé publique France nous parle d'une accentuation de la transmission de cette maladie virale qui est transmise par les piqûres de moustiques infectés, avec un nombre de cas confirmés en constante augmentation depuis plusieurs semaines. C'est désormais la phase 3. C'est le jour le plus stressant de l'année pour les lycéens de terminale et aussi pour leurs parents. Avec les premières réponses ce soir, à partir de 19h, pour le programme Parcoursup, 980 000 lycéens sont concernés. Ils vont savoir si leurs vœux d'orientation pour l'an prochain sont validés. Sinon, ce sera la liste d'attente. Avec une nouveauté cette année, Cécile Bidot, les élèves doivent hiérarchiser leurs vœux en attente.
Le principe, lorsque l'élève est sur liste d'attente pour une ou plusieurs formations qu'il a demandées, c'est qu'il remonte progressivement lorsque d'autres renoncent à leur place. Cela peut être long, alors pour accélérer un peu le mouvement, il faut désormais classer ses vœux en attente en fonction de ses préférences. Cette procédure commence vendredi et va durer 5 jours. Si l'élève obtient l'un des vœux qu'il a hiérarchisé, tous ceux qu'il avait moins bien classés disparaissent. L'Union syndicale lycéenne craint que ce nouveau système ne génère de l'angoisse devant l'écran. Manès Nadel, son président.
Cette accélération du calendrier va donner très peu de temps aux lycéens, à la fois pour faire leur classement et avant ça pour tout simplement gérer quels vœux ils souhaitent accepter. Donc là-dessus, on est face quand même à une situation de stress qui est assez compliquée sur cette semaine-là, qui est en plus une semaine qui précède des examens importants, ceux du bac. Donc ça, c'est quand même un vrai problème.
Dans les classes de terminale, les professeurs constatent aussi que cette période est particulièrement stressante. Christine Guimonet, porte-parole de l'Association des profs d'Histoire-Géo.
Pour les élèves qui sont facilement stressés, angoissés, c'est une charge supplémentaire. Et puis ce qu'ils voient aussi de l'état de l'enseignement supérieur en France, ça peut avoir un effet anxiogène.
L'objectif de l'éducation nationale, c'est que chaque élève ait reçu au moins une proposition de formation avant le début des épreuves écrites du bac le 16 juin.
Cécile Bidot, c'est la dernière en lice, la dernière joueuse française À Roland-Garros, aux internationaux de France de tennis, et c'est celle que l'on n'attendait pas, la Française Loïse Boisson, qui est issue des qualifications et qui est opposée depuis quelques minutes en huitième de finale à l'américaine Jessica Pegula. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Pour l'instant, c'est l'américaine qui mène dans le premier set.
Oui, elle vient de faire le break, Jessica Pegula, la numéro 3 mondiale. Elle mène désormais 4 jeux à 3 dans la première manche et elle est au service pour mener 5 jeux à 3 après une demi-heure de jeu. Pourtant, Loïse Boisson avait bien résisté jusque-là. Elle était rentrée un petit peu avec de la pression sur ce court central pour son premier huitième de finale en Grand Chelem, mais elle avait réussi à se libérer, à oser les amortis, les services volés sans être alertée à son genou qu'il avait fait souffrir lors de son troisième tour. Il faut qu'elle continue comme ça, Loïse Boisson, pour tenter de résister à l'américaine qui avait été finaliste du dernier US Open et quart de finaliste ici en 2022 et qui a logiquement une classe d'écart par rapport à la toute jeune française.
C'est vraiment pas la joueuse qu'on attendait à ce stade pour porter les espoirs tricolores en deuxième semaine, Emma.
Non, c'est vraiment la moins bien classée du camp tricolore ici, 361e mondiale. Alors il faut préciser, Jérôme, que c'est un classement qui ne correspond pas vraiment à son niveau puisqu'elle a passé les 9 derniers mois en blessure, Loïse Boisson. D'ailleurs, son sort avait été assez cruel puisqu'elle avait été invitée l'an dernier à Roland-Garros pour son tout premier Grand Chelem par les organisateurs. Et deux semaines avant, elle avait eu cette blessure grave au ligament croisé qui l'ont immobilisée pendant 9 mois. Et c'est pour ça que son classement est largement redescendue, mais depuis le début, elle est très solide. Depuis le début de ce Roland-Garros, elle a notamment écarté au premier tour la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 24, et elle fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de sang-froid pour son deuxième match sur le court central, et puis surtout d'un physique hors norme qui peut lui permettre de résister aux assauts de la numéro 3 mondiale.
Merci Emma Sarango. En direct des cours de Roland-Garros, on va suivre évidemment le parcours de cette Française, la dernière en lice. Là, ça se joue à une altitude beaucoup plus haute. La course au record pour l'ascension du Mont Blanc. L'alpiniste italien William Bofelli affirme avoir battu ce week-end le record de vitesse. Il faut partir de Chamonix, arriver au sommet du Mont Blanc et retour. 4h43 minutes et 24 secondes, nous dit l'italien ce matin en diffusant des photos de lui devant l'église de Chamonix, en diffusant également sa trace GPS qui lui permettrait d'améliorer le record établi il y a une semaine par le français Benjamin Védrine en 4h54. Ne vous y risquez pas, s'il vous plaît. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac et puis toute l'équipe du prix du livre Inter va nous rejoindre. La lauréate Florence Sévos avec nous, ainsi que les jurés qui lui ont attribué ce prix, la présidente Marie-Hélène Lafont, Eva Bétan et d'autres invités encore. Jusqu'à 14h, parler des livres, c'est encore prolonger le plaisir de la lecture. À tout de suite.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire du festival Étonnant Voyageur. Un air de liberté souffle sur le Festival international du livre et du film. Carte blanche à l'écrivain irlandais Paul Lynch, programme pour découvrir un autre Brésil. Cycle Face à l'histoire avec Philippe Collin. L'éveil au vivant et la mer en commun avec plus de 150 auteurs, cinéastes et artistes venus du monde entier. Rencontres, spectacles, projections, festival de la jeunesse et un immense Salon du livre gratuit. Étonnant Voyageur, du 7 au 9 juin à Saint-Malo, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Des pluies orageuses sur le sud du pays et sur l'est.
Exactement, du sud-ouest vers le Languedoc-Roussillon, le massif central et le flanc est, les nuages dominent largement avec de bonnes averses, parfois accompagnées d'orages. Le littoral de la Provence reste à l'écart avec un ciel très voilé. Le soleil se montre plus tout de même sur la Corse avec une averse possible en montagne. Et puis en remontant vers le nord, du nord-ouest, vers les frontières du nord en passant par le bassin parisien, là les éclaircies sont belles, un petit peu plus contestées, des Charentes vers le Berry, la Bourgogne et la Lorraine, et aussi dans l'intérieur des Hauts-de-France avec une averse possible. Les températures baissent, alors elles sont souvent deux saisons, un petit peu juste sur le sud-ouest. Comptez 18 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, Mulhouse, Bordeaux et Toulouse, 23 degrés à Paris, Nantes, Limoges, 24 pour Lyon et pour Nice, 27 à Nîmes et 28 à Ajaccio. Demain, il y aura encore des averses du sud-ouest au flanc est et un peu de pluie près de la Manche.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 spécial aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de monde à mes côtés dans ce studio, exceptionnellement le studio 621 au 6e étage de la Maison de la Radio pour entourer la lauréate du 51e prix du Livre Inter. L'écrivaine Florence Sévos récompensée pour son roman Un perdant magnifique aux éditions de l'Olivier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Je voudrais que les 24 jurés qui sont avec vous vous applaudissent une nouvelle fois pour ce prix. Vous avez l'air accablé par ces nouveaux applaudissements, Florence Sévos. Comme si un poids s'abattait sur vos épaules à nouveau.
Non, c'est très, c'est extrêmement émouvant. Et en fait, ça me rappelle le moment hier soir, puisque les délibérations ont lieu le dimanche et qu'on l'a su hier soir tard. Et quand j'ai rejoint Marie-Hélène Lafont et ses jurés, dans ce restaurant, j'ai été extrêmement, extrêmement émue par la chaleur et la gentillesse de leur accueil. C'était assez bouleversant.
J'ai l'impression que vous ne vous remettez pas de ce prix.
Ben, j'ai l'impression d'être dans une réalité parallèle, en fait.
À vos côtés, Marie-Hélène Lafont, bonjour. La présidente du jury qui garde précieusement Le perdant magnifique aux éditions de l'Olivier ouvert. Vous nous en lirez un extrait dans une minute. Je salue Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
Vous accompagnez ce prix du Livre Inter depuis des années et vous étiez là ce matin, évidemment, pour la révélation de ce prix. Avant de donner la parole au juré, Florence Sévos, comment est-ce que vous avez vécu votre matinée, cette matinée peut-être d'échange avec les jurés, de partage, de discussion, être aussi entouré?
Ben c'est ça, oui, je m'aperçois que c'est ça qui va être très précieux. Donc je vais garder un souvenir vraiment très fort. Ce sont les échanges que j'ai eus pour l'instant, mais c'est pas tout à fait, la journée n'est pas finie, avec les jurés. Je crois que quand on lit un livre, en quelque sorte, on en est le traducteur, on le traduit pour soi-même. Et parfois, quand on est la personne qui a écrit le livre, eh bien, en parlant avec des lecteurs, on a un aperçu de traduction qui est à la fois un petit peu de ce qu'on y a mis soi et de ce que la personne y a trouvé. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu une sorte de bénédiction.
Et la traduction, elle est différente selon les lecteurs ?
Elle est différente et en même temps, il y a des points communs avec ce qu'on... On retrouve aussi ce qu'on y a mis. C'est quand ça se croise, on est très heureux. Et puis surtout, on n'a presque jamais l'occasion de parler avec... c'est pas seulement des lecteurs, mais avec des personnes pour qui la lecture compte à ce point. Enfin, des personnes qui sont incroyablement motivées pour participer à ce prix.
C'est pour ça qu'on les a sélectionnés.
Ben oui.
Pour ce prix du Livre Inter. Je voudrais qu'on donne la parole à l'un des jurés, peut-être Claire. Où est Claire ? Bonjour Claire. Je vous ai entendu ce matin, alors j'écoutais évidemment la radio, la révélation à 8h, du nom de Florence Sévos, et puis vous avez applaudi spontanément. Il y a une sorte d'émotion collective à ce moment-là.
C'était un moment d'une intensité très forte. Nous n'étions pas tous d'accord, il y a eu beaucoup de débats, mais c'était une sorte de grande complicité qu'il y a eu tout de suite entre tous les jurés. On ne se connaissait pas et on a eu plaisir à échanger et à débattre ensemble de livres qui nous avaient touchés, évidemment, dont Le perdant magnifique. Et voilà, c'était vraiment un moment qu'on n'oubliera pas, qui va rester gravé en nous. Au-delà de cette journée, et pour nous c'est une richesse incroyable aussi de rencontrer Florence Cévos et de pouvoir échanger avec elle.
Qu'est-ce que ça représente justement de pouvoir dire sa passion, peut-être son amour pour un texte à un auteur qu'on a en face de soi ?
En fait, c'est assez intimidant parce que je me retrouve totalement dans ce que vous disiez, en fait. C'est-à-dire que nous, lecteurs, on apporte beaucoup aussi dans une lecture. Chacun a aimé le livre pour différentes raisons. Et c'est vraiment une rencontre avec l'écrivain et aussi entre lecteurs. Et ça, c'est d'une force incroyable et ça donne encore envie de lire et de lire.
Marie-Hélène Lafont, vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines. On était ensemble pour la révélation des livres sélectionnés. Des 24 jurés, 12 hommes, 12 femmes, sélectionnés aussi par Eva et par l'ensemble de la rédaction d'Inter. Comment est-ce que vous avez vécu ces dernières heures et comment est-ce que vous regardez maintenant ce prix du livre Inter, peut-être différemment d'ailleurs de votre regard il y a quelques semaines, il y a quelques mois ?
Oui, en fait, je rejoins Florence et Claire sur la notion du partage, de l'intensité, de la diversité aussi, parce que les lecteurs réinventent les livres. Mmh. Chacun passant par ses chemins, et ses chemins de lecture se croisent cependant. Donc, cette richesse-là, elle était extrêmement intensément présente hier soir pendant les 5 heures, hier après-midi pendant les 5 heures de débat, et elle est ravivée dans les discussions ensuite qui s'établissent ici et là. Et j'ai vécu l'expérience comme présidente, mais j'ai vécu l'expérience comme lectrice aussi. Et j'ai été par exemple déplacée moi-même dans mon expérience de lecture par certains des propos qui ont été tenus hier, bien entendu.
Et l'ouverture d'esprit et d'arriver en se disant j'ai ma conviction, mais bon, je suis aussi ouvert à la discussion et à changer d'avis.
Et c'est quand même extraordinaire. Merci à Inter de rassembler depuis hier, des gens pour qui la lecture est vraiment à l'épicentre de la vie.
Et la démocratie, ça existe. Et on peut discuter ensemble et se mettre d'accord sur un choix et le faire, Eva Bettan, c'est même le principe.
Bien sûr. Et je voudrais rappeler ce que vous avez dit une fois un jury, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas eu beaucoup de militaires parmi le jury. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais cette année-là...
Mais vous avez fait des statistiques,
Eva
Bettan.
Mais cette année-là, on avait un militaire, je ne sais plus quel est son grade. Et au beau milieu des délibérations, il y a une phrase qui lui sort du cœur. Il dit, mais ça devrait être toujours comme ça. Les gens se parlent et ils s'écoutent. Mais cette phrase, je me disais, ça vaut le boulot que ça prend. Voilà. Je dirais que sans être grandiloquente, moi, je considère que notre boulot, c'est de faire du service public. Je suis ravie pour les livres qui sont primés, mais ce qui est tout aussi important, c'est qu'ils ont vraiment le pouvoir.
Claire, vous avez Fabrice, je crois, qui est près de vous. Il est là, Fabrice. Vous avez votre prénom écrit sur votre t-shirt, mais j'avais du mal à lire. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
D'où est-ce que vous venez ? J'ai oublié de le demander à Claire, d'ailleurs.
L'Ivar au Pays d'Auge.
L'Ivar au Pays d'Auge, donc c'est la Normandie avec nous. Et avec vous, Fabrice ?
Moi, du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes.
Comment est-ce que vous avez vécu cette délibération collective ? Faut se mettre d'accord ?
Ouais. Il fallait, il y avait le repas qui arrivait à 21h. Ça a empressé la chose.
Ah oui, il y a un moment quand il faut aller manger, on finit par se mettre d'accord plus rapidement peut-être.
Voilà, c'est ça. Et non, et effectivement, il y a eu cet échange sur chacun des livres qui a un peu, j'imagine, rebattu les cartes pour chacun dans sa tête. Et puis après, ou pas, hein, pour certains, non. Et après, du coup, on a commencé à voter et puis à se lancer là-dedans. Moi, j'ai trouvé que... Ouais, moi j'ai très vite un peu changé d'avis, mais pas complètement.
pas complètement. Pourquoi est-ce que vous êtes venu parmi nous, Fabrice, aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous avez candidaté pour venir jusqu'ici ?
Parce que dans mon boulot, j'écoute beaucoup la radio.
C'est quoi votre boulot ?
Alors, je suis agent technique pour la petite commune dans laquelle je travaille. Je suis le cantonnier, en fait, de la commune. Le seul. Et donc voilà.
Donc c'est souvent dans le camion et il y a souvent la radio ?
Ouais, voilà, dans mon pick-up, ouais, j'écoute la radio dans l'atelier, le matin, le midi, quand je sors, voilà, ouais. Ouais, ouais. Et donc, ouais, j'étais tombé là-dessus un matin en démarrant la voiture, et à plusieurs reprises. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est... voilà, pourquoi pas ? Je pensais pas le faire et finalement je l'ai fait.
Ça fait partie des très belles lettres, des très belles lettres qu'on a reçues parce que on sent ce qu'est la ville là où il est. C'est un hameau, je crois, de 60 habitants, mais dont le territoire est grand comme Lyon. Et on sent ce que c'est la vie des gens. Et ce qui m'a frappé, c'était l'importance de la lecture pour vous. Vous citez notamment l'épigraphe d'un livre de Marie-Hélène Lafont qui commence par rappelez-nous les mots si vous en souvenez.
Alors, si je m'en souviens bien, en tout cas, c'est une phrase extraite d'un livre de Novarina qui compare l'écriture à la marche en montagne. Mmh. Et en fait, comme j'aime beaucoup randonner, ça m'a directement parlé. Et puis, ça rejoint un peu la façon dont je vois effectivement la lecture, c'est-à-dire se lancer comme dans une randonnée, prendre un rythme. Avancer, il y a des moments où ça nous plaît pas, mais on continue et puis on découvre un nouveau paysage et surtout on découvre peut-être un autre point de vue sur le paysage duquel on vient.
L'écriture et la marche en montagne, Marie-Hélène Lafont, Florence Sévos, ça vous parle ?
Ah oui, ça me parle tout à fait. Mais ça me fait penser aussi à une phrase de l'écrivaine américaine Flannery O'Connor, qui dans ses lettres à une amie, je crois, disait que quand elle écrivait, elle avait l'impression de pousser un rocher du bout de son nez. C'est une autre métaphore de l'écriture.
C'est sisyphien.
Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux de nos auditeurs et de nos auditrices qui ne connaissent pas Florence Sévos, Eva Bétan, il faut rappeler que Florence Sévos écrit aussi pour le cinéma, a aussi écrit pour les enfants. C'est une œuvre complète.
Oui, et c'est un spectre qui est large, parce que vous avez eu le concours du premier roman, je crois, en 1995, c'est ça ? Donc, écrit aussi pour la jeunesse, c'est la co-scénariste de la plupart des films de Noémie Lvovsky, que j'aime infiniment. C'est des films qui sont sur la sensibilité en permanence. Camille Redouble est une sorte de petit bijou qui fait pleurer. Et on n'a pas honte de pleurer. Il y a des choses qui, par moments, il y a des larmes. Vous avez envie de tuer quelqu'un qui vous a extirpé des larmes que vous ne vouliez pas sortir. Et il y a des livres et des films qui vous font pleurer. Vous êtes content de ces larmes-là. Donc c'est sur cette sensibilité, le point commun, je dirais, c'est ce sensible et cette manière de pouvoir parler de la jeunesse, de l'enfance et du rapport aux étapes qu'on peut vivre dans la jeunesse. Mais ça va, on va avancer quand même.
Alors l'enfance, le livre suit Anna qui a 16 ans, l'action se déroule dans les années 80 entre Le Havre et Abidjan en Côte d'Ivoire. Les parents d'Anna sont divorcés, elle vit avec sa sœur Irène, avec sa mère Maud et avec son beau-père qui s'appelle Jacques. Et c'est lui ce perdant magnifique, un homme imprévisible, un peu dandy, un peu clochard, tyran, ogre, tout cela à la fois infiniment généreux aussi avec ses belles-filles. Vous avez débuté ce livre il y a plusieurs années, j'ai lu ça, Florence Sévos, avant de le laisser dans un coin, abandonné.
Oui. En fait, j'avais les premières pages qui ont très très peu changé il y a 20 ans, dans un tiroir. Et quand je commençais un nouveau livre, en fait, je croyais, comme j'écrivais très souvent en parallèle des livres pour la jeunesse, d'abord j'ai cru que ça serait dans un livre pour adolescents. Ensuite, je me suis aperçue que non. Et puis, à chaque nouveau livre, je me disais, peut-être ces pages vont trouver leur chemin dans ce nouveau livre. Et c'était jamais le cas. Et en fait, bah, la réponse, c'est que ce personnage de Jacques qui apparaissait dans le début, bah, il voulait prendre toute la place. Il voulait pas être juste un ou deux chapitres.
Mais ça veut dire que vous aviez ce livre en tête depuis des années, que vous disiez, oui, il faut que je revienne à cette histoire à un moment.
J'y pensais pas tout le temps, mais oui, je savais que je l'avais quelque part. Et parfois, j'ai cru que je la reprendrais jamais.
Et est-ce que vous avez compris pourquoi là, c'était le bon moment ? Pourquoi vous y êtes parvenu là, à ce moment-là, de votre vie ?
D'abord, ce qui s'est passé, il y a eu une sorte de déclic, parce que la revue Zadig m'a demandé d'écrire une nouvelle. Et de façon tout à fait paresseuse, je me suis dit « Ah, mais j'ai des pages dans un tiroir. » Donc je suis partie de là, et en écrivant la nouvelle, je me suis aperçue que le nombre de pages qu'on m'avait données, ça allait être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court. Et donc c'est là que j'ai commencé le livre.
Vous en avez d'autres ? Des manuscrits qui dorment ?
J'ai des fragments parfois. Ouais.
Qui peut-être feront des livres de demain. Je voudrais qu'on se plonge dans votre langue, dans votre texte, grâce à notre lectrice, et quelle lectrice, Marie-Hélène Lafont, la présidente du jury de ce 51e prix du Livre Inter. Lisez-nous un extrait, s'il vous plaît. Un perdant magnifique, extrait que vous avez choisi. On vous écoute.
C'est Jacques, le beau-père, c'est le soir de Noël, la dinde cuit dans la cuisine et un piano arrive dans la maison. C'était un piano laqué noir, un quart de queue. Nous avons ouvert la grande porte-fenêtre et il est arrivé du fond du jardin, ficelé sur un chariot dans une nappe d'air froid. Tout le monde s'est tu pendant que les trois hommes lui faisaient franchir le seuil de la pièce. Jacques exultait en silence. C'était comme si Dieu venait d'être livré dans son salon. L'installation a duré de longues minutes durant lesquelles nous ne faisions rien, nous ne parlions pas. Quand ils ont eu fini, Jacques a proposé une coupe de champagne aux trois hommes. « Rapide alors », ont-ils répondu. Et le temps que Jacques aille chercher un pourboire, ils avaient vidé leur verre. J'ai vu Irène, hypnotisée, s'approcher lentement de la surface noire et brillante, incroyablement lisse, délicatement. Elle a soulevé le couvercle et a frappé un do. La note a résonné et Irène a rougi, comme si elle venait de faire quelque chose d'indécent. Elle a aussitôt refermé le couvercle.
Extrait d'Un perdant magnifique de Florence Sévos. Qui joue du piano dans cette famille, Florence Sévos?
Personne.
Personne ne joue du piano. Et alors, pourtant, Jacques fait livrer ce
oui,
piano.
Parce que lui, il rêve. Qu'il y ait des gens qui jouent du piano dans sa maison, il est fou de musique. Et puis, sous prétexte que Irène joue trois notes par-ci, par-là, il trouve qu'il faut qu'il y ait un piano dans cette maison. Une maison sans piano, ce n'est pas possible. Au cas où quelqu'un saurait jouer du piano, quelqu'un de passage, ou un petit ami futur, il faut qu'il y ait un piano. C'est sa façon de fonctionner à Jacques.
Pour que quelqu'un, un jour, n'importe qui, puisse en jouer.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce piano, Florence Sévos?
Ah, ce piano, c'est un petit peu, c'est comme un objet du délit, parce que c'est l'endroit où c'est un des symptômes qui montre que Jacques va trop loin, parce que quand il fait cet achat, qui est d'ailleurs précédé de l'achat de toute une cohorte de meubles qui arrive le soir de Noël, ben il a pas le moindre sou pour les payer, il est déjà terriblement à découvert. Et puis ce piano, c'est la tentation pour Irène, parce que c'est un cadeau extraordinaire. Et puis ça va être un peu un fil conducteur dans le livre, puisque Irène va s'atteler à déchiffrer une petite berceuse d'Éric Satie à cause de la livraison de ce piano.
On suit donc Anna, qui a 16 ans, Eva Bétan, et donc on est avec cette adolescente confrontée finalement à un personnage insaisissable et qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, totalement imprévisible.
Mais ce qui est très beau, c'est que nous la regardons en nous disant un personnage qui est imprévisible, qui peut basculer. Elle le regarde avec de la fascination, de temps en temps de la colère, de temps en temps il lui fait honte. Il y a tous ces sentiments qui se mêlent, mais en même temps c'est quelqu'un qui les aime follement. Et on peut comprendre que des enfants, on peut imaginer dans d'autres situations des enfants tellement aimés. Parce que lui, il est seul. Et c'est comme s'il avait, je crois que c'est une des enfants qui dit, kidnapper une famille. C'était inespéré de rencontrer cette femme avec ses enfants et qu'ils deviennent sa famille. Et ça, c'est comme si elles étaient des héroïnes de romans, d'une certaine manière. Donc ça montre le décalage entre les différentes manières dont on peut voir une réalité. Et tout ça, moi je mets des mots plats dessus, mais ça passe par l'écriture. C'est ça la différence, ça passe par ce qui est dit et par ce qui n'est pas dit. Et parce que ce que vous allez mettre entre les mots, c'est la différence entre l'écriture et la description.
Comment est-ce qu'on se met dans la peau d'une ado de 16 ans, Florence Sévos? On se remémore ses propres souvenirs?
Oui, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Enfin, on se replonge. Après, moi, j'ai un problème, c'est que je reste terriblement attachée à cet âge-là et à l'enfance aussi.
Et donc trop.
Même, oui, trop. Enfin, parfois, je me dis, ça suffit, les personnages d'enfants et d'adolescents, il faut que je grandisse un peu. Mais je reste quand même très attachée à cette période, qui pourtant ne m'a pas laissé beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Peut-être aussi le fait que, voilà, avec ma première éditrice, l'écrivaine Geneviève Brisac, j'ai commencé à écrire des livres pour enfants. J'ai découvert les livres qu'elle publiait et qui étaient des livres audacieux, authentiques et passionnants. Et c'est une écriture qui a beaucoup compté pour moi. Donc peut-être j'ai continué à cultiver un peu les souvenirs de l'enfance et de l'adolescence.
Et certes, la narratrice est une adolescente, mais on a la mère, donc, et Jacques, le beau-père, qui sont des personnages, pour le coup, dont l'adolescence est loin derrière eux, et qui sont magnifiquement à la fois plantés dans le texte, sans être cependant trop déployés. Parce que ce que Eva a souligné tout à l'heure, c'est la présence d'un implicite puissant dans ce texte. Et beaucoup de jurés, pendant les débats hier, se sont appuyés là-dessus.
Ouais, on fait mention de ça pour
parler de la qualité de ce texte.
Sylvain, notamment, où est Sylvain? Alors voilà, Sylvain est là, avec ses lunettes. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous venez de Brive-la-Gaillarde.
Je l'avoue.
C'est ça, c'est pas grave. On peut être corrézien.
On peut lire
et quelqu'un de très bien, absolument, qui est une grande ville du livre, Brive, bien évidemment. Comment est-ce que vous avez reçu ce texte en tant que juré? Qu'est-ce qui vous a parlé? L'enfance? Voilà, racontez-nous.
On a combien d'heures?
Le temps que vous voulez. Allez-y.
C'est celui qui m'a le plus ému sur la sélection. C'est celui sur lequel je n'ai pris aucune note et que j'ai relu deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, il est rentré, c'est un peu comme de la drogue, une injection, vous voyez. Même si je n'en prends pas. Enfin,
Ça fait un effet comparable, est-ce que vous supposez?
Certainement, oui, ouais. je suppose, oui. La descente a l'air plus facile, en tout cas. Et donc voilà, il vous tatoue le cœur et vous êtes là dans cette intimité où tout se bouscule. En fait, c'est voyez-vous, c'est des contrastes permanents, quoi. C'est ce qu'on a évoqué, la honte, l'amour, cette adolescence. Et je crois que Jacques est resté adolescent, en fait. Il est hyper fantasque, il a envie d'aucune contrainte, c'est absolument génial. Une liberté folle, bon, qui conduit évidemment au chaos, mais bon, est-ce que la liberté conduit au chaos? Je ne sais pas, voilà.
Là, on n'aura pas assez de temps pour répondre à
cette question. On n'a pas 2 heures. Donc voilà, c'est extraordinaire.
Vous êtes reconnu dans l'adolescent que vous étiez.
Non, je n'étais pas une fille.
Dans l'adulte que vous êtes aujourd'hui, certes.
Non, je n'ai pas...
Non, mais est-ce que vous avez compris pourquoi ce livre vous avait frappé autant, finalement?
Oui, c'est une période extrêmement difficile, l'adolescence. Enfin, c'est une période de cassure pour moi, si vous voulez, parce que voilà, je suis parti travailler, donc c'est une période de cassure.
Vous avez travaillé jeune?
À 15 ans.
À 15 ans, ouais.
Donc il n'y a pas d'études. Et c'est le livre, le seul compagnon qui me sauve, en fait. Sinon, je crois que je me serais défenestré.
Donc quand vous...
J'étais au premier étage, remarquez.
Oui, c'est moins risqué. Mais quand vous ouvrez ce livre, il y a toutes ces années d'adolescence qui reviennent et vous vous rappelez...
Évidemment, ouais. c'est l'adolescence, c'est cette période tumultueuse, quoi. Il va falloir rentrer dans le monde adulte, il va falloir se plier à des convenances. Il va falloir tracer une vie. Enfin, vous voyez, c'est... C'est incroyable.
On a conscience, Florence Sévos, quand on écrit un roman, qu'on ouvre comme ça, que les gens vont se retrouver et qu'il va y avoir des interrogations pour eux qui vont remonter et que ça va les toucher de manière aussi intime, ce que nous dit Sylvain à l'instant.
Pardon, j'ai un peu de mal à parler parce que je suis très très émue par ce que vient de dire Sylvain.
Je comprends.
Et non, on n'en a pas vraiment conscience et c'est ce qui fait tout le prix pour moi de cette journée d'aujourd'hui qui sera inoubliable.
Et la particularité de ce prix, décerné par des auditeurs, lecteurs, et que vous avez en face de vous. Tout cela dans une langue, je voudrais qu'on parle de la langue aussi, Marie-Hélène Lafont, et dans un format, j'allais dire court, je ne sais pas s'il y a des formats courts ou longs, mais moins de 150 pages, c'est un texte extrêmement ramassé. D'aucuns diraient une écriture à l'os, je ne sais pas si c'est une expression que vous aimez employer.
Moi j'aime employer cette expression, mais... Ici, elle me semble pas tout à fait adaptée parce que il y a une douceur dans cette écriture qu'on n'entend pas dans Allos et dans l'expression Allos. Et il y a une densité, il y a une densité extrême de l'écriture et aussi une dynamique qu'on ne voit pas, qui ne montre pas ses dents, hein, de narrative, qui fait qu'on va aller d'un monde à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un personnage à l'autre, et qu'on va s'avancer dans cette histoire de famille, parce que c'est une histoire de famille, et on va être emporté sans que la langue fasse des effets de manche, du tout. Donc la langue est à la fois puissante et douce.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater dans d'autres livres qui ont été sélectionnés, Eva Bétan, ce format peut-être plus ramassé, peut-être pour s'adresser à un lecteur qui peut-être veut que ça aille plus vite,
tout simplement. C'est deux manières d'écrire totalement différentes. Ouais. Mais Jean Echenoz écrit à l'économie. C'est une autre manière, c'est une autre manière de regarder le monde, c'est une forme d'humour absurde. Enfin, voilà. Ceux qui ont lu Echenoz connaissent son manière d'être, mais c'est aussi de la fiction. Là, on n'est pas du tout... On est dans comment je fais un roman qui est un roman, et c'est aussi sur l'économie, mais c'est une chose qui est très précieuse, l'économie. Parce que c'est la manière d'écrire de Marie-Hélène Lafon, aussi, c'est ça. Dans Les Sources, son livre qui était en compétition, il y a une scène, on entre, et c'est une scène, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans la cour, mais je sens la tension quand le père de famille va rentrer. Et c'est ça qui est magique, par exemple, dans le livre de Florence Evos, il n'y a pas de... sauf erreur de ma part, je ne sais pas si elles sont blondes ou brunes, les filles, grandes, petites, mais je les sens.
On rentre pas dans ce luxe de détails.
Mais je les sens. Je n'ai pas besoin qu'on me les décrive pour les connaître. Et c'est ça que je trouve magique dans l'écriture.
Oui, il y a une grande puissance d'incarnation. J'ai des leçons de douceur à prendre chez Florence Evos.
Vous avez beaucoup de choses à
Moi,
vous dire.
Moi, j'ai beaucoup de leçons à prendre de Marie-Hélène.
Peut-être avez-vous commencé d'ailleurs à échanger ce matin. Il y a un homme qui est pour beaucoup dans ce succès, Florence Evos. Il est avec nous, c'est Olivier Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la maison d'édition, les éditions de l'Olivier. Vous suivez Florence Evos depuis une trentaine d'années.
C'est ça, oui.
Maintenant.
Oui.
Comment vous regardez cette journée, 51e prix du livre Inter, pour ce texte que vous avez publié?
Je vais vous dire une chose un peu contradictoire. C'est à la fois merveilleux, inattendu, extraordinaire, et en même temps, c'est parfaitement logique pour moi. Parce que depuis toujours, je pense que Florence a un talent exceptionnel, un style, Marie-Hélène, vous parliez de l'écriture de Florence, c'est toute la différence entre le style et les effets de style. Il n'y a jamais un effet dans ce qu'elle écrit, c'est toujours très précis, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de poétique dans son écriture. Parce que pour moi, la poésie, ça n'a rien à voir avec le vague, l'informe, c'est exactement le contraire. C'est nommer avec la précision la plus forte, la plus aiguë, ce qui se passe, même quand il ne se passe rien. Et vous avez mentionné aussi l'implicite. Je dirais que dans ce livre, ce qui est tu est aussi important que ce qui est dit. Et c'est ça, c'est une des raisons qui font qu'on est complètement fasciné par ce livre.
Ce prix, c'est l'assurance pour vous que ce livre va toucher un public beaucoup plus large?
Ah, j'en suis sûr, oui. Oui, j'en suis absolument certain. Oui. Mais d'ailleurs, c'est aussi quelque chose de surprenant dans ce qu'on appelle la carrière d'un écrivain, d'une écrivaine, c'est que c'est l'inattendu. C'est-à-dire que Florence a connu de grands succès, des reconnaissances, des moments plus difficiles. Et là, je pense qu'avec avec ce livre, de nouveau, la reconnaissance est là et elle va être très 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 large à mon avis.
Et le livre en a besoin en ce moment, si j'ai bien tout compris, Olivier Cohen.
Oui, le livre, la littérature de manière générale, il suffit de se promener dans les librairies en ce moment, on voit bien qu'il n'y a pas grand monde. Et personne ne sait très bien pourquoi, au fond. Tout le monde avance des explications plus ou moins crédible, mais il reste que la littérature, c'est pour moi le cœur de l'édition du livre. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, mais on voit bien que la littérature a une force d'attraction très très grande et on le sent bien dans les échanges aujourd'hui dans cette émission.
Pour convaincre de nouveaux lecteurs, on va donner la parole pour le mot de la fin à l'un de nos jurés, peut-être Jean-Marc. Où est Jean-Marc ?
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Je suis là.
D'où venez-vous ?
Région Bourgogne et ancien parisien en transition.
On peut convaincre de nouveaux lecteurs aujourd'hui ici même ?
Oui, on peut avec convaincre vous, parce qu'en fait, moi j'ai répondu à l'annonce. En fait, je suis l'annonce du livre Inter depuis des années. Je crois que la première fois, c'est Stéphane Paoli qui m'avait convaincu. 1700 quelque chose. Et là, cette année, donc j'avais été suppléant il y a 7 ans. J'avais lu les bouquins et j'étais resté un peu frustré parce que je suis resté chez moi jusqu'au dernier week-end en me disant peut-être que quelqu'un va se prendre les pieds dans le tapis.
C'est horrible.
Et non. Voilà. Et donc là, j'ai entendu, je crois que c'était l'avant-dernier jour, c'était dimanche. France Inter, c'est ma vie tous les jours, hein, de 5 heures des fois. Et c'est comme si quelqu'un de la famille vous disait d'un seul coup, au fait, on fait nouveau France Inter le livre, enfin le jury du livre Inter, on le sélectionne. Et moi, dans ma tête, j'étais sur mon ordi et je dis, je vais répondre et je vais dire, moi j'étais jury à 50%, qu'est-ce qui reste des chances, quoi. Et je ne savais pas du tout qu'on avait le droit de se représenter.
Et vous voilà.
Donc il faut oser.
Ici même, et donc il faut poursuivre.
Et ma lettre, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à l'écrire.
Merci pour ce cri d'encouragement pour tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Merci Jean-Marc. Je voudrais, au risque d'accabler un peu plus Florence Sévos, que vous l'applaudissiez. Une nouvelle fois, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un perdant magnifique, c'est aux éditions de l'Olivier, 51e prix du livre Inter. Votre journée n'est pas terminée, je le sais, Eva Bétan, mais moi je vous dis d'ores et déjà à l'année prochaine.
Merci.